Paul écrit à son ami Timothée. « Mon cher Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. J'ai une grande nouvelle pour aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas liée, elle est libre. Je sais bien que nous-mêmes, nous sommes pleins de contradictions et d'ambiguïtés, de prisons et d'infidélités. Mais la parole est libre, libre de nous parler malgré nos trahisons, libre de nous libérer malgré nos prisons, libre de nous bousculer malgré nos hésitations. Je vous invite à la prière. Père, nous faisons silence devant toi pour recueillir ta parole par ton esprit. Souffle la parole et nous nous lèverons et nous marcherons. Libère la parole et nous nous convertirons. Amen. Amen. Levons-nous et chantons le premier spontané. Laisse-nous entrer, Seigneur, entrer dans ta maison.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir vers toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, alléluia. Viens-nous rassemble, alléluia.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou aux habitués de ces bancs. Sentez-vous accueillis. Bienvenue aussi à ceux qui écoutent ce culte sur le site de notre église. Oh là là, c'est seulement après avoir choisi tous les textes de la liturgie que j'ai réalisé, grâce à Marie-Vonne, que nous sommes aujourd'hui la veille du 1er novembre, et qu'il s'agit du culte de la Réformation. J'ai failli tout reprendre à zéro en ne choisissant que des textes des réformateurs. Finalement, à la réflexion, je me suis dit que le fil rouge que j'avais choisi, et que je vous laisse deviner, était fondamentalement dans la ligne directrice du bouleversement de la Réforme. En ce dimanche de la Réformation, c'est Olivier qui éclairera la parole de Dieu par sa prédication au sujet d'un grand prêtre helvétique. Lévitique, pardon. C'est le tithing de ta prédication, Olivier, pour vous donner à tous envie d'écouter attentivement et jusqu'au bout. Je crois que là non plus, rien n'est dû au hasard, et que le choix du texte et l'érudition d'Olivier nous mèneront au cœur de la réforme protestante. Pour nous accompagner, une personne progressivement acquise à la réforme, mon épouse, Marie-Vonne, à l'animation musicale uniquement, et à Frédéric, à l'accueil fraternel. Ben oui, lui aussi, venu à la réforme il n'y a pas si longtemps de cela. Tout comme Olivier d'ailleurs. En ce qui me concerne, la famille Bonjour a été convertie de force à la réforme par les Bernois en 1536, dans le pays de Vaud. Pour autant, bien que j'ai baigné dans la réforme, depuis tout petit, je redécouvre chaque instant ce qu'est la réforme. J'ai bien parlé de bouleversement permanent. C'est bien ça dont il s'agit. Et en même temps, ce n'est peut-être pas ça non plus. Nous chanterons les spontanés que vous trouverez dans le feuillet en première page du recueil de cantiques, ainsi que les cantiques affichés au tableau. Nous en avons trois pour aujourd'hui. Sentez-vous bien dans ces lieux, grâce à la parole qui libère. Et je pense que nous devons nous lever pour louer Dieu avec le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Je vous invite à vous lever, ah ben non, c'est maintenant, pardon, pour chanter le cantique 35-20, page 493. Yes. Dieu qui nous appelle à vivre au combat de la liberté, pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous apprend à vivre au chemin de la vérité. Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui nous invite à suivre le soleil du ressuscité. Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis. Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'esprit. Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis. Tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit. Vous pouvez vous asseoir. La grâce de Dieu nous conduit à la repentance. Nous prions. Nous avons souvent entendu ta parole. Nous l'avons écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté. Mais nous l'avons peu vécu. Nous avons appelé les autres à la paix, mais nous l'avons peu manifesté. C'est là notre péché. Pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix, Seigneur, pardonne, Seigneur, aie pitié. En Jésus-Christ, amen. Et nous restons assis pour chanter le spontané de tous les mots, il me guérit.
De tous mes mots, il me guérit. Il parle et je revis pour me guider sur son chemin. Mon Dieu saisit ma main.
Pour accueillir le pardon, n'hésitez pas à vous lever. Dieu est amour. Il est la seule vérité qui nous rend libres. Libres des asservissements et convoitises de ce monde. Libres de nos propres désirs et de toutes nos culpabilités. Il nous rend libres pour aimer et accepter d'être aimés, de pardonner et accepter d'être pardonné, Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. Par le Saint-Esprit, une puissance de vie nouvelle nous est accordée. Que Dieu inscrive ainsi en chaque cœur l'assurance de son pardon, l'espérance de ce salut déjà offert, pour que nous puissions construire avec lui son royaume. Amen. Chantons notre reconnaissance en restant debout pour chanter le spontané du pardon, ô ma joie et mon espérance.
Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je n'en crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien.
Écoutons la volonté de Dieu avec un expert de la liberté, Dietrich Bonhoeffer, dans « Station sur le chemin de la liberté ». Si tu pars à la recherche de la liberté, apprends avant tout la discipline de tes dons et de ton âme, afin que tes désirs et ton corps ne te mènent pas à l'aventure. Que ton esprit et ta chair soient chastes, soumis à toi-même entièrement, et que, docile, ils cherchent le but qui leur est assigné. Personne ne sonde le mystère de la liberté si ce n'est dans la discipline. Et nous chantons le spontané « De ton esprit emplit nos êtres ».
De ton esprit emplit nos êtres, de ton amour emplit nos cœurs. Habite en nous, fais-nous connaître. Et ta lumière et ta douceur.
Nous prions avant de lire les Écritures. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semé d'obstacles et bordé de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Je laisse la parole à Olivier pour la lecture de la Bible et la prédication.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ceux que je n'aurais pas encore salués. Alors, comme c'était la Réformation, je me suis dit, on va faire un peu de théologie. Bon, c'est toujours un peu aride. Et j'ai pris les Hébreux, le tableau, c'est un des textes du jour, l'Épître aux Hébreux, de 23 à 28. Alors, j'avais formé le projet de vous lire la présentation de la Tobe, qui est absolument incompréhensible. Donc j'ai récupéré sur une vieille Bible du début du siècle dernier quelque chose qui me paraissait plus audible. On démarre au verset 23. De plus, il y a eu des prêtres en grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Ah oui, il mourait. Tandis que lui, parce qu'il demeure à jamais, possède un sacerdoce qui ne passera pas. C'est aussi pour cela qu'il peut perpétuellement sauver ceux qui recourent à lui pour s'approcher de Dieu. puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Tel est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'a pas chaque jour besoin, comme les grands prêtres, d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés avant d'en offrir pour les péchés des autres, du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est que la loi établit pour grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment, intervenue après la loi, fait du Fils un prêtre éternellement parfait. C'est aride. Alors, je vous propose de replacer ce texte historiquement. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette épître, donnons succinctement le cadre. L'auteur de l'épître aux Hébreux est anonyme. Ça n'est pas Paul. Les destinataires en sont inconnus. Et la date de rédaction reste incertaine, avec une vraisemblance assez forte entre 60 et 90. C'est un texte un peu aride, oui, ben ça on l'a vu, dans lequel on retrouve la logique de Paul, bien que les thèmes soient différents. La logique de Paul, c'est entre autres que le sanctificateur et le sanctifié boivent à la même source de vie, que Jésus assure le rôle de révélateur du salut, de la justification par la foi, notamment en 12.2 et en 12.10. On y retrouve aussi les thèmes de la philosophie grecque de Platon, à savoir que le monde terrestre, le monde perceptible, n'est qu'une ombre, une image imparfaite de la réalité céleste éternelle qui lui sert de modèle. On retrouve en 8.5 et en 10.1. Pour l'auteur de cette épître aux Hébreux, c'est bien Jésus, puis, plus encore le Christ, qui par leur élan vers Dieu, déchire le voile avec lequel le monde terrestre cache le monde divin. La mystique qui se dégage de l'ensemble de cette épître, alors je ne parle pas que du petit extrait que j'ai lu, mais de l'ensemble de l'épître, parce que sinon on ne comprend pas l'extrait, induit qu'il s'agit là d'une théologie de transition vers une branche particulière du christianisme, la gnose, laquelle connaîtra un développement majeur au cours du deuxième siècle, c'est-à-dire du siècle suivant. Pour la gnose, le royaume est une réalité éternelle, hors du temps, que les hommes ne voient pas. Pour les gnostiques, ce royaume coïncide avec le monde divin de la lumière, d'où les spirituels sont issus et qu'ils sont destinés à regagner après leur mort. On est là aux antipodes de Luc en 17-20-21, qui fait dire à Jésus que le royaume est « entos humon », c'est-à-dire littéralement « à l'intérieur de nous ». D'ailleurs, au moment du canon de Muratori, vers 200 après Jésus-Christ, cette épître aux Hébreux ne fera pas partie des textes retenus. Venons-en au passage qui nous intéresse, 7-23-28. Les versets 23-27 nous confirment qu'à la différence des prêtres lévitiques, et non pas helvétiques, périssables et mortels, le Christ est intemporel. Il a désormais la faculté de pouvoir intercéder éternellement auprès de Dieu en faveur de ceux qui recourent à lui pour être sauvés. Christ, ce nouveau médiateur auprès de Dieu, n'a plus nul besoin de procéder au sacrifice rituel pour se purifier. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il est pur et saint de toute éternité, ce qui lui confère toute qualité pour endosser le rôle parfait d'intercesseur auprès de Dieu. Mais avant tout, au verset 28, en mettant un terme à la chaîne des grands prêtres mortels, l'épître aux Hébreux affirme l'abandon de la loi au profit de ce que le texte nomme la parole du serment, c'est-à-dire par Christ, le prêtre éternellement parfait, une alliance nouvelle avec Dieu, toute chose que Paul défendra en affirmant la primauté de la foi sur la loi. Mais au-delà de cette projection immatérielle du Christ, quelles sont les questions que pose cette épître aux Hébreux ? Quatre grands thèmes sont abordés explicitement dans le texte, en 7, 24, 25, 28. Je cite, « Lui, le Seigneur, parce qu'il demeure à jamais, possède un sacerdoce qui ne passera pas. C'est aussi pour cela qu'il peut perpétuellement sauver ceux qui recourent à lui pour s'approcher de Dieu, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Premier thème, nous avons besoin d'être sauvés. Deuxième thème, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut perpétuellement sauver ceux qui recourent à lui pour s'approcher de Dieu. C'est donc bien en nous approchant de Dieu que nous serons sauvés. Hein? Nous avons besoin d'être sauvés, là on a une vraie démonstration. Nous avons besoin d'être sauvés et c'est en approchant de Dieu que nous serons sauvés. Troisième thème, toujours verset 25, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire que Dieu ne pourrait donc pas être approché directement. Il faudrait nécessairement un intermédiaire, un ambassadeur qui intercéderait en notre faveur. Quatrième thème, verset 28, avec Christ éternellement parfait, Dieu, par la parole du serment, fonde une nouvelle alliance avec les hommes. Eh bien, je vous propose de considérer ces deux derniers thèmes, celui du médiateur et celui de la nouvelle alliance. Sociologiquement, chez les Juifs anciens, comme au sein de bien des peuplades néolithiques, la question ne se posait pas. Le chef de la communauté assumait tout à la fois l'intercession avec le divin et la charge hiérarchique du pouvoir. Tout comme dans l'Égypte antique, cette double fonction était le fondement de l'ordre du monde, repoussait le chaos dans les limbes dont elle ne devait jamais plus sortir après avoir initialement créé le monde. Le pouvoir du chef était légitimé par sa capacité à dialoguer avec le divin, aux fins essentielles de la prospérité de la communauté. Et le grand roi prêtre maintenait la stabilité de la civilisation, de l'ordre du monde, à défaut de celle de la société. On évitait ainsi le désenchantement, l'ennui, ennui au sens philosophique fort du terme. Bref, on repoussait l'absurde, si cher à Camus. Bien au-delà de la reconnaissance par Dieu de son peuple élu, voilà ce qu'apportait véritablement l'alliance avec le divin. À la différence des autres peuples de l'Antiquité, chez les Juifs, pour des raisons théologiques d'exclusivité dans leur rapport à Dieu, la loi et le territoire sont les deux manifestations de l'ordre du monde. Affecter l'un, c'est mécaniquement déstabiliser l'autre. Or, sous les coups de boutoir des invasions et des occupations successives, chez les Juifs, les représentants de la loi, les Lévites sadducéens, naviguant de compromission en corruption, se sont à ce point disqualifiés que leur position d'intermédiaire légitime vis-à-vis de Dieu devint intenable. Car la question qui se posait était bien celle d'aller au sens littéral du terme contre la loi. Et donc de se passer des intermédiaires humains de l'époque. Quel humain pouvait désormais raisonnablement se targuer de pouvoir interpréter les textes, de délivrer la bonne parole, d'éviter la petitesse et de suivre une conduite irréprochable sa vie entière. Toute chose qu'il aurait qualifiée d'ensemble pour être un guide légitime. Vinrent ensuite le prophète Yoshua et l'événement qui le prolonge, le Christ. Une autre alliance devenait possible. Mais même dans ce nouveau cadre, si nous considérons Christ comme un nouveau départ en direction du divin, une nouvelle alliance pour une relation directe, une relation de cœur à Dieu. Alors comment interpréter, comme il est dit dans le texte des Hébreux, le fait de s'adresser à un médiateur pour s'approcher de Dieu ? Revenons à celui qui a fondé en fait le christianisme, que nous dit Paul de Tarse. Paul règle son compte au péché. Pour s'approcher de Dieu, il ne s'agit pas de suivre une organisation hiérarchique ou sociale dans laquelle le péché est perçu comme un malfaire, comme un écart par rapport à la norme. Car cette norme, consignée dans des textes dits sacrés, est justement édictée par des humains. Qui peut se montrer certain que la parole soit celle de Dieu ? En revanche, on peut être sûr que c'est celle des hommes au sujet de Dieu. Et comme tout phénomène d'organisation humaine, cette norme peut être positive pour la cohésion du groupe à une époque donnée, puis se révéler néfaste lorsque les circonstances évoluent. Pour Paul, le véritable péché n'est pas le mal faire. Pour Paul, le véritable péché est le mal être. Il se loge au creux même de l'obéissance croyante, dans le programme d'obéissance que trace la loi, la hiérarchie, les organisations, et plus encore dans l'illusion que l'homme puisse et doive s'y conformer. Et plus encore dans l'illusion que l'homme puisse et doive s'y conformer. Car la loi, la norme, ne protège jamais du mal. Sinon, par exemple, vivrions-nous ce cataclysme actuel, cataclysme dont l'épicentre se situe au sein de l'Église romaine et dont le tsunami atteint de proche en proche toutes les rives de la chrétienté. La loi fonde une morale rétributrice, une morale d'intérêt. Comporte-toi bien, c'est-à-dire selon la norme, et t'iras au paradis. Or, dans le programme d'obéissance que définit la loi, la norme est une illusion. L'illusion que l'homme peut être justifié par Dieu, c'est-à-dire reconnu par lui, à partir de sa propre volonté d'homme, à partir de ses propres forces d'homme, pour respecter les dites normes, la loi, le dogme, la liturgie. Mais pour Paul, Dieu accueille l'homme en raison de sa foi, et non de ses efforts pour respecter le dogme. Paul illustre cette aspiration à la gloire de l'homme dans Dieu par le mot grec « kaochastai ». Et ce terme, qui n'est pas très bien traduit par les Bibles françaises, il est traduit par « se vanter, s'enorgueillir ». En fait, ne se rapporte pas à une morale quelconque et moins encore au respect de la norme, d'un dogme ou d'une liturgie. Ce que Paul désigne par le verbe « kaochastai », c'est notre quête vers ce qui donne un sens à notre vie, vers ce qui éloigne l'absurde. Ainsi, se glorifier n'est pas faire preuve d'arrogance aussi longtemps que nous ne cherchons pas en nous-mêmes cette glorification. On le trouve dans la première lettre aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous verrez les passages si ça vous intéresse, et également que notre cœur s'élève vers Dieu parce que nous sentons que c'est lui qui nous fait vivre. On le trouve également dans les Romains, dans le Corinthien. Bon. Ainsi, ne s'agit-il pas de se positionner comme juste devant Dieu, mais bien de se laisser recevoir par lui. En fait, il y a très peu d'action dans cette affaire théologique. Il y a une disposition d'esprit ouverte et naturelle, mais il n'y a pas d'effort particulier à faire. Il y a juste à essayer de comprendre, à essayer de se laisser pénétrer par l'intelligence d'une démarche qui nous porte naturellement vers Dieu. Nous voyons bien qu'il ne s'agit plus de disposer d'un grand prêtre ou d'un clergé. L'homme est face à son Dieu. Cet engagement personnel, intime, est la source de sa liberté. Christophe, vous parlez tout à l'heure de la liberté. Eh bien, la source de la liberté de l'homme, pour Paul en tous les cas, elle se situe là. Et c'est également la dynamique de sa libération, parce que c'est quelque chose qui n'est pas statique, ce n'est pas une révélation qui nous tomberait d'un coup, ce n'est pas le coup du chemin de Damas. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps et qui se fait progressivement, de manière dynamique. Ayant renoncé à toute norme théologique traditionnelle, il reste à l'homme la prodigieuse action de Dieu pour remplir son cœur. Le péché, à savoir la difficulté à communiquer avec Dieu, et ce mal-être qui pénètre l'homme avant même que la loi puisse y apporter un remède quelconque. Un intermédiaire, un grand prêtre, peuvent-ils être d'un réel secours dans cette affaire ? À chacun d'y répondre. Par la croix, n'est-ce pas le don de Dieu qui se manifeste ? tout autant, si ce n'est davantage, que la position d'intercesseur de Christ. La croix manifeste la fin de cette culpabilité, de cette sourde angoisse de constater qu'en dépit de toute notre détermination, de petits démiurges portés par une volonté de puissance inutile, nous sentons bien au fond de nous la vacuité de nos efforts. C'est ce que dénonce l'existentialisme de Sartre, et c'est de cela que les symboles Christ et croix nous libèrent. La croix décape notre image de Dieu. Nous voici nus devant la puissance divine. C'est comme cela que nous recevons le rayonnement d'amour total et inconditionnel de Dieu. Paul nous montre que le péché est de se vouloir pur. Il nous enseigne que la véritable justification passe par l'abandon complet à Dieu et non pas par le respect de la loi, du dogme. Avec Paul, nous avons quitté la morale d'intérêt, la morale rétributrice, pour une morale du devoir et de la libération grâce au dialogue direct avec le divin. Un représentant, un intermédiaire, un médiateur peut-il faciliter notre reconnaissance par le Créateur ? Alors que c'est dans le secret de nos cœurs et dans notre relation directe avec lui que s'accomplit ce miracle, le miracle de la foi. Nulle réponse toute faite, et encore moins une seule réponse pour tous. Ta foi t'a sauvé. Va en paix, nous dit Luc en rapportant les paroles de Jésus en 8:40. Soyons reconnaissants au prophète Yoshua d'avoir ouvert la voie de notre libération. Soyons reconnaissants à Christ dans Paul de nous la révéler si précisément et si intensément. Je cite Galates 2:19. C'est à cause de la loi que je suis mort à la loi, afin de ne plus vivre que pour Dieu. Et de conclure avec Luc 8:55. Enfant, réveille-toi. Et son esprit revint, et elle se leva aussitôt. S'il est une bonne nouvelle, c'en est bien une. Amen.
Levons-nous pour entonner le cantique 4506, Ô Jésus mon frère, à la page 685, les trois strophes. C'est bien à la page 685 avec la mélodie de la page 684.
Ô Jésus mon frère, ma joie, ma lumière. Tout le temps. Jésus, mon frère, est mon roi. Tout l'espoir, tout l'hiver, la paix sur la terre. Ô Jésus qui m'aime, ta
Restons debout pour confesser notre foi. Dieu est amour. Par amour, Dieu, notre Père, a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui comme chaque jour, à répondre à son amour, dans l'Église, comme artisans de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisans de justice et de paix, dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toutes choses. Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen. Et nous chantons le cantique 5209 à la page 848 et uniquement les strophes 3 et 7. 3 et 7 marqués.
Il est une foi paisible, tout devient possible à l'enfant qui croit. Elle est plus haute aux montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Elle est plus haute aux montagnes, un grain de moutarde les déplacera. Seigneur, augmentons-nous la foi. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmentons-nous la foi.
Voici le moment de l'offrande. Nous sommes libres, par notre don, de manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Merci Seigneur pour ton amour qui nous a inspiré ce geste de don. Amen. Alors voici le temps des annonces. Alors je vais déjà remercier Olivier pour ta prédication. Merci Marie-Vonne pour ta musique. Merci Frédéric pour avoir assuré l'accueil. Merci à tous quand même pour votre présence en cette veille du 1er novembre. Alors il y aura chorale mardi à 19h15, ça c'est certain. Groupe prière mercredi à 18h au temple. Et alors la semaine prochaine, le culte des familles avec la réunion du groupe pain, parole, partage après le culte au temple. Et la réunion, on m'a dit, de l'école du catéchisme. La réunion du catéchisme, des parents du catéchisme, après le culte. Toujours dimanche prochain, il y aura une répétition pour ceux qui souhaitent, enfin pour les musiciens et puis les chanteurs qui ont été pressentis pour venir, comment dire, agrémenter le culte qui aura lieu, donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc ça se rapproche. Il n'aura pas lieu ici, il aura lieu à l'église de Grand-Mossinge à l'occasion du synode régional de notre église qui se tient au balcon du lac à Sévrier le week-end du 11 novembre. Donc il n'y aura pas de culte ici, hein, ce sera bien, il ne faudra pas se tromper, elle est à Grand-Mossinge. Toutes les informations sont sur une affiche qui est dans le hall. Et donc il y aura une répétition à l'issue du culte familial, enfin après la journée de caté à 14h30 dimanche prochain, le 7 novembre. Et donc le culte du synode le 14 novembre à 11h. Est-ce que j'ai oublié des choses, Pierre? Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces à partager, d'autres personnes? Je crois que voilà, on a fait le tour. Et donc, nous allons prier les uns pour les autres avec une lecture, une prière de Jacques Hamed, Le Temps de l'Homme, édition Salvator. Chaos en moi, Seigneur, mon cœur d'un côté, ma raison de l'autre, impulsion néfaste que la foi contrôle. Événements multiples, sans lien apparent. Épreuve un jour, joie un autre. Pourquoi suis-je ce carrefour de tant de routes? Je voudrais être un. Je suis plusieurs. Je te regarde, Seigneur. En toi, je cherche la réponse. Tu n'es pas seul si tu es unique. Tu es famille, tu es société, personne libre et autonome. Cependant, tu es un dans le ciment de l'amour. C'est là ta réponse, Seigneur, l'amour. L'unité dans l'amour. Aimer la raison et le cœur, aimer la chair et la grâce, aimer la nuit et le jour. Apprends-moi à aimer pour que le multiple de la vie devienne un dans mon cœur. Et permets-nous de redire avec une ardeur renouvelée la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur. Oui, partez, et soyez à l'écoute de Dieu. Partez comme des femmes et des hommes libres, car à l'écoute de Dieu, rien ni personne ne peut vous lier. Rien ni personne ne peut vous enfermer. Partez, laissez résonner en vous sa parole, comme un gong et vibrant de la passion de Dieu, partez et parlez. Dites Dieu qui est venu une nuit de Noël partager notre existence. Dites Jésus plongé dans notre humanité qui nous entraîne à une vie nouvelle.
L'amour de Dieu a été manifesté dans l'œuvre de son Fils, par sa vie, par ses souffrances, par sa mort et par sa résurrection. Jésus nous libère et nous envoie renouveler vers nos frères comme témoins de cet amour.
Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, nous accompagne et nous rende nous-mêmes rayonnants et fraternels. Allons dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen.
Amen.
Et nous chantons le dernier spontané. Tu nous appelles à t'aimer.
Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soyez signe d'amour, de paix et de tendresse. Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi.
Bon dimanche
à tous. Merci.